Europe Soir,
le 18-20.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1 pour ces deux heures d'information et de débat. À suivre dans un court instant le journal de 18h. Marche arrière en Haute-Corse, le préfet a présenté ce matin une série de nouvelles restrictions face au Covid. Le Liban à genoux, un an après l'explosion du port de Beyrouth. À 18h15, je recevrai Antoine Bazbous, politologue franco-libanais, directeur de l'Observatoire des Pays Arabes. 18h30, le débat des grandes voix. Nous sommes à la veille de l'avis attendu du Conseil constitutionnel sur l'extension du pass sanitaire dans les restaurants, avions et trains. Le projet du gouvernement sera-t-il validé? Certaines mesures seront-elles retoquées? Autant de questions que nous nous poserons. Et puis à 19h20, votre club des idées focus ce soir sur les nouveaux modes de déplacement nés ou amplifiés par la crise sanitaire. Vous enfourchez beaucoup plus souvent votre vélo, électrique ou non. C'est toujours le cas peut-être pour vos vacances. Les trottinettes ont colonisé nos villes. La cohabitation avec les voitures n'est pas toujours aisée. On essaiera de faire le tri entre les effets de mode et les tendances de fond. Vous nous appelez, bien sûr, comme tous les soirs. Vous réagissez au 39-21. J'attends vos appels dès maintenant. Tout de suite, le journal présenté par Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous.
Vous êtes sur Europe 1, il est 18h.
Le taux d'incidence dans le département continue d'évoluer, avec un taux d'incidence chez les 15-19 ans de 1887 pour 100 000. Donc on est deux fois au-dessus du taux moyen.
L'heure est aux décisions d'urgence en Haute-Corse après l'activation du plan blanc hier. Pour faire face à l'afflux de malades dans les hôpitaux, le préfet décide de nouvelles mesures de restrictions sanitaires.
Au Liban, le deuil et la colère. Un an après la double explosion qui a détruit une partie de Beyrouth, des manifestations en parallèle d'une conférence internationale pour le pays. Emmanuel Macron a promis une nouvelle aide, mais il les critique également, les dirigeants libanais.
L'État français, bonnet d'âne de la lutte contre la pollution, il est condamné à payer une grosse amende pour n'avoir rien fait pour améliorer la qualité de l'air.
Les sports collectifs français brillent aux Jeux Olympiques. On fait le point sur la journée à Tokyo dans ce journal.
La Bourse de Paris, le CAC 40 gagne 0,33% à 6 746 points.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, le retour du soleil demain entre Bayonne et Nice, des nuages partout ailleurs, des averses toujours entre Caen et Royan, entre Strasbourg et Lyon, du vent entre Corse et continent et des rafales à 150 sur le Cap Corse. Je vous en dis plus à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Face à la flambée d'épidémie de Covid-19, la Provence-Alpes-Côte d'Azur déclenche à son tour le plan blanc, ce qui lui permet de faire face à l'afflux de malades dans les hôpitaux de la région.
Deuxième région à prendre cette décision après la Corse hier. Sur l'île de Beauté, les chiffres sont en constante augmentation. En Haute-Corse, le taux d'incidence y est quatre fois supérieur à la moyenne nationale. Pour freiner l'épidémie, le préfet du département a annoncé à la mi-journée de nouvelles mesures de restriction. Yasmine Akatou.
Oui, il faut impérativement limiter les brassages intergénérationnels, dit le préfet. Pour cela, en Haute-Corse, à partir de demain, tout rassemblement de plus de 10 personnes sera interdit. Les concours de pétanque, les kermesses et les fêtes de village prévues cet été seront annulées. L'idée est de casser les chaînes de contamination, dit François Ravier, le préfet de Haute-Corse. Mesure prise face à la dégradation de la situation sur place.
Le taux d'incidence dans le département continue d'évoluer. On est passé il y a trois semaines de 357 à cette semaine, 836. Avec un taux d'incidence chez les 15-19 ans de 1887 pour 100 000. Donc on est deux fois au-dessus du taux moyen.
François Ravier précise que les résidents représentent 80% des contaminations. Les contrôles des touristes sont donc efficaces. Et pour réduire la pression sur l'hôpital de Bastia, restaurants, bars, cafés, hôtels devront cesser leurs activités à 1h du matin. Cette mesure ne concerne pas les discothèques qui appliquent le pass sanitaire. Et puis le masque sera de nouveau obligatoire en extérieur dans de nouvelles communes. Parmi elles, les très touristiques Calvi, Lille-Rousse ou encore Saint-Florent. Ces restrictions seront appliquées jusqu'à nouvel ordre.
Yasmina Katou, et dans le contexte de la contestation autour de l'extension du pass sanitaire et de l'obligation de vaccination pour certaines professions, un appel à la grève nationale illimitée chez les pompiers, l'un des principaux syndicats de la profession, appelle à la mobilisation à partir de lundi.
Un mouvement symbolique qui n'entravera pas leurs interventions, comme l'explique Xavier Bois, président de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels.
Les grèves chez les sapeurs-pompiers, ça ne modifie pas la distribution des secours, car nous sommes soumis à une obligation de service et nous sommes tous désignés, rappelés pour prendre notre poste pour travailler. C'est une grève symbolique, hein, c'est ce qui nous permettra de continuer à discuter, à revendiquer notre position. Que les choses soient claires, la Fédération autonome que je représente ne s'oppose pas à la vaccination. Nous ne demandons pas aux collègues de ne pas se faire vacciner s'ils le souhaitent. Moi-même, je suis vacciné, mais je l'ai fait en mon âme et conscience. J'ai pris le temps de la réflexion me concernant et j'ai fait le choix de le faire. On s'oppose seulement au principe qu'on oblige les sapeurs-pompiers à se vacciner, parce qu'il y a quand même une remise en cause des principes de liberté de choix. Les sapeurs-pompiers, nous avons toujours revendiqué que nous n'étions pas des personnels soignants. On nous impose systématiquement les mesures coercitives des autres services.
Xavier Bois, président de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels, avec Diane Berger pour Europe 1. Et la campagne vaccinale poursuit son cours à travers le monde. Plusieurs pays ont décidé un rappel avec une troisième dose, 6 mois après la première injection. L'Organisation mondiale de la santé appelle ce soir à instaurer un moratoire sur les doses de rappel pour donner la priorité à la vaccination dans les pays pauvres.
Il y a un an tout juste, 4 août 2020, peu après 18h, le port de Beyrouth était soufflé par deux explosions provoquées par des milliers de tonnes de nitrate d'ammonium. Le stock a ravagé une partie de la ville et tué plus de 200 personnes.
Aujourd'hui, pour aider le pays à se relever de cette catastrophe, une visioconférence internationale a été organisée par la France et les Nations Unies. L'occasion pour Emmanuel Macron de promettre un tiers de l'aide d'urgence nécessaire au pays, mais également de critiquer vertement les dirigeants libanais.
Nous allons, dans les 12 mois qui viennent, mettre en place près de 100 millions d'euros de nouveaux engagements en appui direct à la population du Liban pour ce qui concerne la France. Et je veux ici annoncer également l'envoi de 500 000 doses de vaccins contre le Covid dans les prochaines semaines et donc durant ce mois d'août. La conférence d'aujourd'hui est une conférence humanitaire, de soutien à la population. Elle est donc inconditionnelle. Mais il n'y aura aucun chèque en blanc au bénéfice du système politique libanais, car il est, lui, depuis le début de la crise et même avant, défaillant. J'ai parlé de la bienveillance de la France à l'égard du Liban. Elle se doit aussi d'être exigeante. Elle l'est, elle le restera, et j'y veille. Les dirigeants libanais semblent faire le pari du pourrissement. Je le regrette. Je pense que c'est une faute historique et morale.
Emmanuel Macron, qui s'est exprimé depuis le fort de Brégançon, il est actuellement en congé. Le président qui a également agité le spectre des sanctions si aucun gouvernement n'est formé et aucune réforme engagée.
Au même moment, au Liban, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans le centre de Beyrouth.
Eux aussi pointant l'inaction de leurs dirigeants alors que le pays peine à se redresser. Une journée également placée sous le signe du deuil, Nicolas Feldman.
Oui, colère et deuil avec en ce moment des cérémonies religieuses sur ce port de Beyrouth, encore marqué par l'explosion. Il y a quelques minutes, les noms des 214 morts connus à ce jour ont résonné dans un haut-parleur. En première ligne, les familles de victimes avec des portraits de leurs proches décédés l'année dernière. Un peu plus tôt, vous le disiez, par dizaines de milliers, les Libanais ont convergé dans les rues du centre-ville avec ces messages, ces slogans pour demander justice et vérité. Car un an après, eh bien, l'enquête sur l'explosion du 4 août est toujours au point mort. La classe politique est accusée de tout faire pour torpiller le travail du juge d'instruction. Aucun des hauts responsables n'a été mis en cause. Alors ce soir, la tension monte dans les rues de la capitale avec des accrochages devant le Parlement. Des manifestants jettent des pierres contre les forces de l'ordre qui répondent avec des canons à eau et des tirs de gaz lacrymogène.
Nicolas Feldman.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Restez avec nous dans un instant. On s'intéresse à cette amende infligée à l'État, accusée de ne pas lutter suffisamment contre la pollution de l'air. Et puis, on fera un point sur la journée des Français à Tokyo. A tout de suite.
Félicitations, la voiture est à vous pour 15 000 euros. Et à cela s'ajoute bien sûr le prix des tapis.
Ignoré.
Et les frais de service.
Ignoré.
De 600 euros.
Ignoré.
Ce qui nous amène à 16 000.
Ignoré.
Évitez les frais additionnels. Choisissez CarNext et adoptez une nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion. Avec un prix fixe tout compris. CarNext. Des voitures de qualité en toute sérénité. Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine, voire sur carnext.com.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
T'es chez Lidl ?
Ah, je suis sur les lieux. Et en ce moment, le filet de lieu noir MSC est à 1,69€ les 220 grammes au lieu de 2,29€. Moins 26% patron.
1,69€ le filet de lieu noir ? Pas de peau pour nous ?
Oui, sans peau le filet de lieu.
Oui.
Sans arrêt aussi.
On est mal. Hein.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 7,68€ le kilo, pêché en Atlantique Nord-Est. Offre valable jusqu'au mardi 10 août. Chez Lidl, même pendant les vacances, les prix sont les mêmes dans toute la France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Europe Soir, le 18-20. Alexandre Lemaire.
18h08 sur Europe 1, la suite du journal avec vous, Sophie Tussaud. L'État français épinglé pour ne pas avoir fait le nécessaire contre la pollution et pour améliorer la qualité de l'air.
Le Conseil d'État le condamne à payer 10 millions d'euros, une somme record qui pourrait être renouvelée dans 6 mois si rien n'est fait. Marion Gauthier, qu'est-ce qui a abouti à cette condamnation ?
Eh bien, c'est une plainte des Amis de la Terre déposée en 2015. L'ONG s'appuie sur la directive européenne sur la qualité de l'air et s'inquiète déjà du mauvais bilan de l'État français. Dès 2017, le Conseil d'État ordonne au gouvernement de se mettre rapidement dans les clous. Ultimatum répété l'an dernier, mais des dépassements des seuils de particules fines autorisées sont encore observés dans 8 agglomérations, de Paris à Marseille, en passant par Grenoble et Toulouse. L'amende aujourd'hui infligée à l'État, c'est l'ultime recours, insiste Louis Coflard, l'avocat des parties civiles.
C'est une victoire très importante parce que ça vient dire qu'une association seule peut gagner contre le président de la République et le Premier ministre. Là où c'est une victoire importante, c'est que nous avons dit que l'amende devait être d'un montant considérable. Sinon, jamais le gouvernement ne respecterait la décision qui a été rendue. Il va falloir continuer malheureusement à surveiller.
Et c'est ce que fera la cinquantaine de requérants qui ont rejoint l'association dans son combat judiciaire. Ce que fera aussi le Conseil d'État. Il évaluera l'action de l'État contre la pollution de l'air tous les 6 mois et pourrait renouveler chaque semestre cette amende de 10 millions d'euros. Ce qui représente plus de 50 000 euros par jour de retard sur l'application de la directive européenne.
Marion Gauthier.
Direction les JO de Tokyo avec cette nouvelle médaille pour la France aujourd'hui.
Aujourd'hui c'est une médaille de bronze en voile en 470 dérivés. River double remporté par Aloïse Retorna et Camille Lecointre. Ça fait à présent 25 médailles pour la France, Cyril de la Morinerie.
Oui, les Françaises terminent derrière les Britanniques et les Polonaises. Alors, le duo tricolore a été débouté de sa réclamation. Elle s'était émue de l'attitude des Britanniques, soupçonnés d'avoir laissé volontairement passer les Polonaises. Il n'empêche, c'est une très belle médaille de bronze. Camille Lecointre, déjà d'ailleurs en bronze à Rio avec une autre partenaire, est une athlète et une maman comblée. Elle ramène à la maison une médaille pour son fils Gabriel, âgé de 4 ans.
C'est sûr, c'est particulier parce que il y a 5 ans, je m'imaginais même pas pouvoir peut-être repartir. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus. J'avais pas vraiment de modèle de maman sportive. Même si je regrette qu'il soit pas là ce soir, mon fils, j'ai des super souvenirs qui seront inoubliables. Quoi.
Bah, vous lui rapportez une belle médaille.
Oui, je sais qu'il a suivi les courses aujourd'hui. Et à force d'être sur les compétitions, je pense qu'il a dû reconnaître quelques visages à la télévision.
Voilà, c'est Camille Lecointre interrogée par Corinne Boulou. Et il s'agit du 3e podium pour la voile française aux Jeux après les médailles d'argent de Charline Picon et de Thomas Goyard en planche à voile.
Oui, en athlétisme, Cyril, Kevin Mayer est en difficulté en décathlon.
Oui, le recordman du monde du décathlon est seulement 5e du classement général à l'issue de la première journée. Il faut dire que le Français de 29 ans, médaillé d'argent à Rio en 2016, a le dos bloqué depuis une semaine. Kevin Mayer a décidé de prendre des anti-inflammatoires qui l'ont aidé pour le concours de saut en hauteur, même si ensuite, pour la dernière épreuve du jour, il n'a pas réussi le 400 mètres qu'il espérait, car cette fois, il souffrait de crampes. Kevin Mayer au micro Europe 1 de notre envoyé spécial à Tokyo, Bruno Couaz.
On a bossé pour relâcher le dos, gros massage. Je peux me libérer à la hauteur comme je ne me suis pas libéré depuis très longtemps. Un énorme plaisir à la hauteur, mais le problème c'est que le concours a duré vraiment longtemps. Et arrivé au 400, j'ai fait un premier départ sur la piste. Malheureusement, j'ai eu une crampe au mollet direct. Donc j'ai pas osé partir. Et ça se ressent sur le chrono et c'est dommage parce que les points que je gagnais à la hauteur, je les perds quand même vachement au 400. Je sais pas comment je vais me lever demain pour être honnête. Tout est possible. Tout le monde sait que j'ai une très grosse deuxième journée. Maintenant, il faut que j'arrive à optimiser mes épreuves comme j'ai réussi à optimiser la hauteur.
Voilà, on espère que ça ira mieux pour Kevin Mayer que l'on retrouvera demain pour les 5 dernières épreuves du décathlon. Déception pour Quentin Bigot, lancé de marteau, le vice-champion du monde, termine seulement 5e du concours. En athlétisme, on suivra également demain dans la nuit la finale du 110 mètres au haies avec Pascal Martineau-Lagarde et Aurèle Manga.
Et on notera tout de même cette belle performance des sports collectifs français à Tokyo.
Magnifique carton plein pour le basket, le hand et le volley. Ce sont 5 demi-finales à disputer avec des rêves de médailles partout. Les handballeuses ont écrasé les Pays-Bas 32-22. Elles retrouveront vendredi la Suède. Et puis les basketteuses ont obtenu de justesse leur ticket en battant sur le fil l'Espagne 67-64 et défieront chez elles le Japon vendredi. Pour finir, le successeur d'Usain Bolt sur 200 mètres est un Canadien. C'est André Degrasse, déjà en bronze sur le 100 mètres. Il a devancé les Américains sur le demi-tour de piste en 19 secondes 62.
Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1.
Et gros plan à présent sur cette bataille judiciaire autour de la diffusion des matchs de Ligue 1 avec cette première manche gagnée par le football français contre Beansport.
La chaîne Qatari est sommée par la justice d'assurer la diffusion de 2 matchs de Ligue 1 par journée de championnat, Marion Dubreuil.
Oui, le tribunal judiciaire de Paris a donné raison à la Ligue française de football face à Beansport. En clair, la justice française ordonne à la chaîne Qatari de respecter le contrat signé avec la LFP en 2018. Beansport s'était engagé il y a 3 ans à programmer, produire et diffuser les matchs de Ligue 1 du samedi soir et du dimanche après-midi. La chaîne sera soumise à une astreinte d'1 million d'euros par jour de retard dans l'exécution de ce contrat. Mais attention, le débat de la diffusion de la Ligue 1 n'est pas pour autant réglé, car Beansport renvoie la balle à Canal+, avec lequel elle a signé un accord de sous-licence en 2019. Ce deuxième volet de l'affaire sera normalement tranché demain par le tribunal de commerce de Nanterre. 2 options, soit Beansport gagne face à Canal+, et c'est la chaîne française qui devra payer, produire et diffuser les matchs de la Ligue 1, soit Beansport est débouté et la chaîne Qatari pourrait déposer de nouveaux recours. Or, le temps presse pour la Ligue française de football qui attend dès demain un premier versement de 68 millions d'euros, sans compter le lancement du championnat de France après-demain.
Marion Dubreuil.
Allez, on part dans l'Est de la France à présent. Les vergers de l'Est, à cause de la mauvaise météo de ces dernières semaines, trop de pluie, pas assez de soleil, eh bien les mirabelles sont en retard.
Oui, normalement, elles devraient déjà être mûres, mais il va encore falloir attendre une bonne dizaine de jours. Exceptionnellement, cette année, la récolte aura lieu à cheval, entre août et septembre, et donc il y aura beaucoup moins de saisonniers. Reportage dans le petit village de Saint-Marc, au sud de Nancy. Mélina Fachin.
Oui, bonjour, ici Léandré, là de Saint-Marc pour la récolte des mirabelles.
Chez ce producteur de mirabelles, tout le monde s'affaire. Léa, l'une des filles, enchaîne les coups de fil pour trouver des saisonniers.
Il nous faut, nous, en moyenne, sur l'exploitation ici, une 60aine de personnes. On a une 40aine de personnes. Et encore, on a 40 personnes, mais ils ne sont pas là sur toute la saison.
Puisque cette année, la récolte ne commencera que vers le 15 août et se prolongera en septembre.
Et là, on a toute la population d'étudiants qui forcément va faire défaut fin août et début septembre.
Thierry André, le gérant de l'exploitation.
Donc on est demandeur, alors ça veut dire des gens qui sont retraités, les femmes qui sont au foyer, les gens qui sont au RSA. Les aides chômage et le RSA sont parfaitement cumulables avec les salaires de cueilleurs.
Ouais. Et on peut se faire beaucoup d'argent. Bruno Collin, le directeur de Vega Fruits, la coopérative qui rassemble les producteurs de mirabelles.
C'est un paiement à la tâche, donc c'est en fonction du nombre de paniers que vous faites. Les meilleurs cueilleurs font jusqu'à 3 fois le SMIC. Si vous avez envie de papoter, de vous détendre, vous pouvez aussi. C'est plutôt dans la bonne humeur. Hein. Heureusement, c'est un bon produit. En plus, on peut en manger autant qu'on veut. On porte pas le masque, il n'y a pas de passe sanitaire. Il faut vous inscrire, il y a de la place.
Plus de 1000 postes sont à pourvoir dans la région. Saint-Marc, en Lorraine, Mélina Fachin, Europe 1.
C'était le journal de Sophie Tussaud. Merci Sophie. On vous retrouve à 18h30 pour l'essentiel de l'info. Allez, un point sur la météo. Valérie Darmon, demain, nouvelle pluie à l'ouest. Quelle surprise. Et puis du soleil quand même sur le sud, heureusement.
Vous avez raison, quelle surprise. Encore une nouvelle perturbation océanique qui aborde la Bretagne en tout début de journée. Les pluies qui restent faibles sur la Normandie et les Pays de la Loire en cours de matinée. Le vent qui souffle à 70 km/h sur le littoral breton et le Cotentin. Et l'après-midi, ces pluies qui se décalent du nord au centre, s'espaçant de plus en plus et débordant un petit peu sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Sur le quart nord-est, le ciel est toujours très automnal, avec des brouillards locaux matinaux près des frontières et des averses l'après-midi, et même de bonnes giboulées le soir sur les Hauts-de-France. Du massif central au sud-ouest, le temps est plus calme, les averses sont rares, les éclaircies restent timides, excepté en matinée près des Pyrénées. Et enfin, le soleil reprend ses droits, il revient sur les régions méditerranéennes, mais le vent souffle assez fort sur les côtes varoises et plus encore en Corse, jusqu'à 100 km/h sur le nord de l'île, voire davantage d'ailleurs sur les caps les plus exposés.
Merci Valérie, nouveau point météo à 18h30.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Dans un instant, de nouvelles aides internationales pour le Liban. Emmanuel Macron préside une conférence à Paris. Il condamne les blocages politiques. Mon invité sera le politologue Antoine Basbousse. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Alexandre Lemaire.
Le Liban, un an jour pour jour après l'explosion du port de Beyrouth. Plus de 200 morts, 6500 blessés, 300 000 sans-abri. Un an plus tard, le pays du Cèdre ne s'est toujours pas relevé de la catastrophe. Mon invité à 18h20 sur Europe 1, Antoine Basbousse, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, directeur de l'Observatoire des pays arabes, Antoine Basbousse, pardon, vous êtes franco-libanais. Un an après l'explosion, le Liban reste à genoux. Rien n'a changé, ou presque.
C'est l'enfer au quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de courant, plus de médicaments, plus d'essence.
les prix se sont envolés et les salaires se sont effondrés. Bref, c'est la misère, c'est la famine et surtout c'est le désespoir de toute une population.
Mmh. Quels sont les besoins les plus urgents pour reconstruire le pays aujourd'hui ?
Écoutez, si on peut réfléchir en termes humanitaires et alimentaires, il faut permettre à ce pays, à ce peuple de garder la tête au-dessus du niveau de l'eau. Mais ça ne résout pas le problème. Le problème est ailleurs. C'est-à-dire que ce pays est colonisé par l'Iran à travers le Hezbollah. Le Hezbollah a sélectionné des dirigeants politiques qui sont des télégraphistes chez lui. Tout ça, c'est pour diluer, déliter l'identité libanaise et la remplacer, la préparer à être colonisée totalement par l'Iran. Donc aujourd'hui, c'est la tutelle iranienne qui s'exerce sur ce pays, et pour sauver ce pays, il faut qu'il y ait un mandat international qui le soustrait à cette tutelle iranienne. Parce qu'aujourd'hui, le drame, c'est quoi ? C'est qu'il y a un an, nous commémorons l'explosion du port. Mmh. Eh bien, c'est 2700 tonnes de nitrate d'ammonium. Qui est-ce qui les a acheminées ? Qui est-ce qui les a protégées ? Qui est-ce qui a permis à Assad de venir prélever pour ses barils d'explosifs et de les balancer sur sa population ? C'est le Hezbollah. Qui est-ce qui empêche aujourd'hui l'enquête de progresser ? C'est évidemment le Hezbollah. C'est aussi toute cette classe politique qui l'a mise en place et qui est solidaire entre elles, qui se serre les coudes pour empêcher l'enquête d'avancer. Les immunités sont refusées, même pour les hauts fonctionnaires. Je ne parle même pas des députés et des anciens ministres. Donc il y a quelque chose d'extrêmement pourri. Il faut libérer le Liban de ses dirigeants et trouver une autre solution.
Pourquoi ce blocage politique, Antoine Basbous ? Le Liban n'est plus gouverné depuis un an, plus de gouvernement depuis un an, depuis la catastrophe.
Il y a un vide sidéral depuis un an. Il n'y a pas de gouvernement et c'est le gouvernement invisible du Hezbollah qui s'impose et qui contrôle tous les pouvoirs. La présidence de la République, le chef du gouvernement, le président de l'Assemblée, la majorité des députés. Donc il y a quelque chose d'extrêmement pourri qui empêche d'avancer, parce que accepter qu'il y ait des réformes, ça veut dire le regard de la communauté internationale va s'exercer en même temps que les aides. Exercer le regard de la communauté internationale, c'est empêcher le Hezbollah de contrôler le port, l'aéroport, les frontières, la contrebande. De remettre de l'ordre dans ce pays, ça veut dire désarmer le Hezbollah. Et le Hezbollah, c'est un État dans l'État. Il est plus puissant que l'État et il ne veut pas de cette solution. Donc, il laisse pourrir la situation.
Mmh. Vous évoquiez l'enquête, hein, l'enquête au point mort, Antoine Basbous. C'est une source de colère pour les Libanais.
Oui, cette colère s'exprime en ce moment même. Je voyais sur un autre écran actuellement qu'il y ait des échauffourées à Beyrouth parce que toutes les parents des victimes qui sont tombées l'année dernière se sont rassemblés ce soir pour manifester et occuper la place à Beyrouth et dire leur colère et le rejet de cette classe politique et de la misère qui leur a été imposée.
Vous évoquiez également, Antoine Basbous, cette piste syrienne. C'est une piste qui est évoquée majoritairement par la presse locale libanaise. Est-ce que c'est une piste étayée ? Ce n'est qu'une piste pour l'instant.
Écoutez, la piste pour l'étayer, il faut faire parler les dirigeants qui ont fermé les yeux, qui sont des collaborateurs du Hezbollah, des petits télégraphistes du Hezbollah et de l'Iran, qui ont permis à ce stockage de se faire sur le port de Beyrouth et à des camions d'acheminer le nitrate d'ammonium en Syrie pour les utiliser dans les barils que les hélicoptères d'Assad jetaient sur la population. Donc tout ça, s'il n'y avait pas de culpabilité, eh bien le Hezbollah laisserait les dirigeants parler, être interrogés par le juge d'instruction. Ce qui n'est pas le cas. Une année est passée et la vérité n'est pas prête d'éclater.
Donc, si l'on suit votre hypothèse, Antoine Basbous, on serait plutôt sur un trafic international de produits explosifs, possiblement destinés au régime de Bachar el-Assad.
Écoutez, on nous a raconté des histoires comme un bateau qui était tombé en panne face à Beyrouth, au port de Beyrouth, et il a déchargé et le stockage s'est fait depuis 2013 sur place. Vous vous rendez compte, on raconte n'importe quoi. Et tout, il y a eu beaucoup de dirigeants de deuxième niveau qui ont émis des avis aux autorités en leur disant « mais c'est explosif, c'est dangereux pour la ville ». Tous les dirigeants n'ont pas osé bouger, lever le petit doigt parce que le Hezbollah gère ce stock et l'expédie régulièrement en Syrie pour être utilisé dans les barils d'Assad. Oui. Donc, vous voyez, personne n'ose aujourd'hui dire la vérité. Et la vérité, c'est que ce pays est colonisé par l'Iran à travers son parti, son bras armé qui s'appelle le Hezbollah.
Oui, on avait d'abord considéré la piste de la négligence, négligence grave, mais négligence tout de même. Les autorités du port de Beyrouth sont souvent considérées comme parmi les plus corrompues au Liban.
Oui, mais le port n'a pas... le monopole de la corruption. La corruption est à tous les étages, à commencer par les plus hautes sphères. Parce que, voyez-vous, les dirigeants libanais sont des milliardaires la plupart des cas. Alors comment peut-on être honnête et détenir des milliards alors qu'il y a quelques années, ils n'avaient pas le sou? Donc il va falloir quand même regarder de plus près et chercher comment ces gens se sont enrichis à ce point. Ils sont des petits télégraphistes du Hezbollah. La devise du Hezbollah, c'est quoi? Voler autant que vous voulez, piller le pays et partager avec nous, mais les affaires stratégiques, c'est nous qui les gérons exclusivement. C'est-à-dire le Hezbollah laisse le pillage se faire et partage, mais en même temps, il n'accepte pas qu'aucune partie, qu'aucun de ses obligés ne s'occupe des affaires stratégiques du pays.
On a vu même Emmanuel Macron, on le voit en première ligne, le chef de l'État a annoncé de nouvelles aides. Ce chiffre, il y a quelques minutes, hein, 370 millions de dollars promis par la communauté internationale. Emmanuel Macron qui a pu se faire reprocher des erreurs dans le passé par sa gestion de la crise libanaise.
Écoutez, la gestion de cette crise n'est pas facile. Il s'agit d'un panier de crabes dans lequel... comment dirais-je, le président a essayé d'avancer. Mmh. Il a effectué 2 déplacements, 3 conférences internationales. Il a payé de sa personne. Il a mobilisé le monde entier, l'Union européenne. Et il a désigné pour les bénéficiaires de cette aide la population. Et cette aide passe par les ONG et jamais par le gouvernement. Mmh. Vous voyez la défiance. Il a ouvert les yeux, il sait à qui il a affaire. C'est pourquoi toute cette aide humanitaire, mais le Liban n'a pas besoin seulement d'aide humanitaire, il a surtout besoin d'aide politique pour le débarrasser de cette tutelle, de cette colonisation iranienne et Hezbollah.
Je voyais ce témoignage, Antoine Basbouz, d'une jeune femme libanaise à Beyrouth qui dit « on a réparé les maisons, on n'a pas réparé les gens ». C'est cela l'image du Liban aujourd'hui ?
Écoutez, les réparations sont vraiment minimes par rapport aux dégâts parce qu'il va falloir des milliards de dollars pour réparer tout le quartier qui a été dévasté. Figurez-vous que cette explosion est la plus puissante après les bombes nucléaires depuis 1944. Donc vous voyez, vous imaginez ce que c'est le souffle de cette explosion. Il y a eu plus de 218 morts et 6500 blessés. Donc c'est calamiteux, c'est très vaste. Et pour réparer, le Liban n'a plus d'argent parce qu'il est en faillite depuis mars 2020. Et ce qui restait a été pillé par la contrebande en exportant les produits subventionnés justement par le Hezbollah en direction de la Syrie.
Merci Antoine Basbouz, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Et ce chiffre, donc 370 millions de dollars promis par la communauté internationale lors de cette conférence qui s'est tenue à Paris sous la présidence d'Emmanuel Macron.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Dans un instant, les titres de l'info et puis vos grandes voix. J-1 avant la décision du Conseil constitutionnel sur l'extension du pass sanitaire alors que le variant Delta galope. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Alexandre Lemaire.
18h30 sur Europe 1, l'essentiel de l'info avec vous, Sophie Tussaud.
Après la Corse, c'est la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui déclenche le plan blanc et ce afin de faire face à l'afflux de malades dans les hôpitaux de la région. En Haute-Corse, de nouvelles restrictions dès demain pour limiter la propagation du virus. Tous les des rassemblements qui ne sont pas soumis au pass sanitaire, comme les fêtes de village ou les bals, sont interdits jusqu'à nouvel ordre. La conférence internationale pour le Liban, 370 millions de dollars vont être récoltés, parmi lesquels 100 millions donnés par les États-Unis et 100 millions par la France. L'État français épinglé pour ne pas avoir fait le nécessaire contre la pollution, 10 millions d'euros d'amende, une somme record qui pourra être renouvelée dans 6 mois si aucune mesure n'a été prise. À Tokyo, une médaille de bronze en voile remportée par Aloïse Retorna et Camille Lecointre, la 25e pour la France. Et puis l'équipe de France féminine de basket qui se qualifie pour les demi-finales après avoir éliminé les Pays-Bas 32 à 22.
Merci Sophie, nouvelle édition complète à 19h. On fait un nouveau point météo avec vous Valérie Darmon. Le ciel évolue peu encore demain.
Effectivement, la France qui reste nuageuse en ce jeudi sur les deux tiers nord, avec en matinée quelques brouillards locaux. Sur le nord Picardie, au fil des heures, une nouvelle perturbation qui rentre par un gros quart nord-ouest, apportant de la pluie sur la Normandie, les Pays de la Loire, la Bretagne, le Poitou-Charentes, de plus en plus de nuages. Aussi à l'intérieur des terres, entre Lille et le Massif central en passant par Paris. Le soleil qui revient sur un tout petit tiers sud, les températures qui restent inférieures au normal, les minimales entre 11 et 15 degrés en général, les maximales entre 20 et 24 sur une grande moitié nord, jusqu'à 29 du sud-ouest à la Méditerranée.
Merci Valérie, on vous retrouve à 19h.
Europe Soir, le 18-20, Alexandre Lemaire.
18h32 sur Europa, on ouvre le débat des grandes voix de ce mercredi soir avec Jeannick Halimi, bonsoir.
Bonsoir.
Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien et Bruno Jeudy, bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Rédacteur en chef à Paris Match. On attend donc demain l'avis du Conseil constitutionnel sur l'extension du pass sanitaire aux restaurants, aux avions, aux trains longue distance. On verra avec vous dans quelques minutes si les sages peuvent tiquer ou non sur certaines mesures promises par prévues, en tout cas par le gouvernement. D'abord, Bruno Jeudy, vous avez recueilli pour Paris Match les confidences d'Emmanuel Macron en Polynésie. On avait entendu alors le chef de l'État sermonner les anti-vaccins, mais en coulisses, c'est ce que vous nous révélez, il s'est montré encore plus sévère à l'endroit des anti-vaccins.
Oui, il faut remettre ça dans le contexte. On était au lendemain de la deuxième manifestation, même des deux premières manifestations finalement des anti-vax et des opposants au pass sanitaire. Il y en a eu une troisième samedi dernier. Et en marge de ce déplacement, j'ai pu discuter avec le président. Et sur ce point-là, il s'est montré extrêmement sévère. Il l'avait été face aux caméras à l'hôpital, mais après...
Encore plus.
Il a discuté au fond et d'abord, il récuse l'amalgame avec les gilets jaunes. Il fait la différence. Il estime que c'est autre chose, que c'est le fait de quelques dizaines de milliers de personnes et ce mélange de radicaux, de personnes qui aussi essaient de faire de la récupération, c'est en gros des opposants. Il accuse un peu les extrêmes politiques et même quelques membres des formations républicaines. Et pour lui, ils confondent tout. Ils mettent en danger la démocratie et c'est une ferme opposition. C'est-à-dire, il dit je ne céderai en rien à leur violence parce que c'est mettre en cause la démocratie. Il dit même je les invite à aller dans les fameux États qui ne sont pas des États de droit où justement on ne peut plus manifester alors qu'ici on peut encore manifester. Il va même jusqu'à rappeler, et il n'a pas tort sur ce point, qu'au fond ici il rappelle que la France est le seul pays d'Europe où les ministres sont entendus par la justice en temps de crise, où lui il estime que jusqu'à présent on n'a pas la preuve du contraire, ouais. Et c'est ce qu'il rappelle, que la France, le gouvernement a franchi tous les caps, que ce soit les décisions, toutes les décisions ont été soumises au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel et bien sûr au vote du Parlement.
Ouais, alors il s'en prend, dites-vous, à la complaisance des extrêmes politiques. Quand des citoyens sont en telle perte de sens, je cite encore le président, ils vont jusqu'à dire qu'on vit en dictature. Attention, là dit Emmanuel Macron, les mots ont un sens.
Oui, ça, il s'est même un peu, c'est un peu le moment où il s'est même franchement agacé, quoi. C'est-à-dire, il dit, il faut qu'on devienne sérieux, il faut qu'on arrête de tout mélanger, de dire que la France serait une dictature. Et ça l'agace franchement quand, il peut monter assez vite en pression, ouais. Lorsqu'on le pousse un peu sur cette question-là.
Vous le disiez, Bruno, donc le président ne veut pas faire l'amalgame entre les anti-vaccins et les gilets jaunes. C'est vrai, Jannick Halimi, il y a ce point en commun entre les deux mouvements, sous la bannière de ces profils, des populations très différentes, en fait. Qu'on parle de gilets jaunes ou d'antivaccins.
Oui, il y a des populations très différentes, aussi bien dans les gilets jaunes, effectivement, que dans ceux qui ont défilé dans les rues, comme le rappelait Bruno ces dernières semaines. Ces derniers samedis, on trouve des gens de l'extrême droite, de l'ultra-droite même, de l'ultra-gauche, des gens de droite et de gauche. On trouve des petits retraités, quelques familles aussi, des gens qui se réclament du catholicisme un peu ultra aussi, également. Donc il y a un peuple, enfin un mécontentement extrêmement divers. Mais le fait qu'il y ait ce point commun, la comparaison n'est pas raison, parce que on va voir d'abord si le mouvement se poursuit, parce que le mouvement des Gilets jaunes s'était poursuivi, souvenez-vous, même après les vacances de Noël, hein. Il avait commencé en novembre, il s'est poursuivi jusqu'en février, mars ou avril, on va voir ça. Et puis surtout le point principal, à mon avis, et je ne sais pas si vous allez en parler, un sondage vient de paraître pour les Échos, notamment fait par la société Elab, qui montre que contrairement aux Gilets jaunes, et c'est une différence essentielle, l'opinion publique ne suit pas et ne soutient pas. Massivement, je veux dire, ne soutient pas aussi massivement la contestation contre le pass sanitaire et contre la vaccination que les Gilets jaunes. On a vu que les Gilets jaunes avaient été soutenus et soutenus longtemps, et que même ce soutien, les premières semaines, avait augmenté dans l'opinion publique, alors que là, il s'érode déjà passablement, et qu'il y a plutôt une majorité qui ne soutient pas cette contestation, même si après on peut rentrer dans les détails sur la mise en œuvre du pass sanitaire et sur les modalités de la politique sanitaire du gouvernement. Mais en tout cas, je pense que l'une des différences essentielles avec les Gilets jaunes, et elle est déterminante, c'est le soutien de l'opinion publique, qui est, encore une fois, bien moindre et qui s'érode en plus dans cette contestation que dans celle d'il y a deux ans ou deux ans et demi.
Alors justement, dans ce contexte, comment interpréter ces mots durs du président face au mouvement des anti-vaccins ? Est-ce que vous y voyez, je ne sais pas, de la vigilance, peut-être une forme d'inquiétude sur l'évolution possible du mouvement à la rentrée ?
Moi, comment je le vois ? Alors, je n'ai pas dit que ce mouvement était inexistant, il n'avait pas de fondement, il n'avait pas de soutien. Ouais. Donc, effectivement, et c'est le rôle du président de la République et de l'exécutif en général, de le surveiller, de surveiller ce mouvement, de faire en sorte qu'il ne s'étend pas, tout est encore possible, qu'il ne s'étend pas, notamment à des catégories comme celle des jeunes, qui ne se vaccinent pas et dont on sait que l'opposition peut avoir des conséquences terribles en termes politiques, surtout si elle descend dans la rue, et qu'elle ne s'étend pas des professions qui sont frappées par la crise et notamment les conséquences économiques. Je veux parler des restaurateurs, des petits entrepreneurs. Donc le gouvernement surveille effectivement ce mouvement de très près. Et deuxièmement, il cogne. Voilà, il cogne contre le virus avec la vaccination.
De plus en plus, week-end après week-end.
Week-end après week-end. Et l'interview de Bruno jeudi, en tout cas que Paris Match vient de publier, montre qu'il cogne aussi sur une frange, mais une frange quand même que le président estime comme importante, la plus radicale de cette contestation. Donc il explique, on l'a vu sur TikTok, les ministres vont sur le terrain, mais ils cognent également, et c'est le virus cogne et les oppositions cognent, donc l'exécutif cogne.
L'exécutif cogne d'un côté et rassure de l'autre. Bruno, vous le prédisiez dès lundi d'ailleurs dans Europe Soir, Emmanuel Macron a posté hier une deuxième vidéo sur Instagram où il vient rassurer justement sur les possibles effets secondaires du vaccin. Il dit vous prenez plus de risques en gros en conduisant votre voiture. On est toujours sur Instagram. Là, le message s'adresse clairement aux plus jeunes.
Oui, il essaie en fait. L'exécutif a quand même été surpris par ces manifestations. Il ne pensait pas que ça prendrait, que ça monterait comme ça en puissance, puisqu'il faut reconnaître qu'entre le premier, puisqu'il y a eu trois samedis de manifestations, ça a progressé. Il y avait du monde, incontestablement, la dernière fois. Donc, ensuite, ce que je vous avais dit lundi, c'est-à-dire que l'exécutif a mesuré qu'il fallait aussi essayer de faire, séparer un peu les différents. Parce que dans les gens qui manifestent, au fond, on sait, dans ce pays, il y a à peu près 15% d'antivax. il y a peu de chances qu'ils arrivent à les convaincre. On le voit bien, il y a une espèce de noyau dur enquisté. D'ailleurs, on a une singularité un peu en Europe, hein, notre point de vue-là, et ça va être très difficile de pouvoir faire baisser cette
descendre
partie-là.
Sous les 15,
ouais. Mais il y a aussi une autre partie, on sait à peu près la même proportion, 15% de Français qui attendent de voir, qui ne savent pas, qui sont encore en train de se demander si ce vaccin est vraiment efficace, s'il ne transmet pas des choses qui... Bah, voilà, qui croient au fantasme, à toutes les rumeurs les plus folles qui courent sur ce vaccin. Et ceux-là sont encore... C'est encore possible de les convaincre. D'où la campagne du président pour essayer de les convaincre via les réseaux sociaux et surtout atteindre, j'allais dire, les jeunes qui sont sans doute les encore atteignable. Et c'est ce à quoi s'emploie le président, le gouvernement, parce que ces 15%, ils sont un peu la clé aussi de la possible de pouvoir atteindre cette immunité collective que le gouvernement espère dépasser ou atteindre d'ici l'automne. Et c'est vrai que dès lors qu'on dépassera les 50 millions de vaccinés, ce sera quand même une sacrée performance et là, on sera dans une meilleure situation. Aujourd'hui, il faut reconnaître que cette épidémie, cette quatrième vague, c'est d'abord l'épidémie des gens non vaccinés, principalement. C'est ça, il faut le redire, c'est la vérité. C'est factuel ce que je dis, c'est les gens dans les hôpitaux qui le disent. Donc, c'est assez dingue de se dire qu'on a une arme, ça s'appelle le vaccin, et que pour l'instant, il y a quand même encore une proportion non négligeable de Français qui la refusent ou qui attendent. Et c'est pour ça que le gouvernement et le président s'emploient depuis le début de semaine à essayer de les convaincre tout en étant sévère avec les anti-vax, ceux qu'ils visent dans les propos que je rapporte cette semaine dans Paris Match.
L'arme du vaccin et l'extension attendue du pass sanitaire, on l'évoquera dans un instant dans les grandes voies, 18h42. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Alexandre Lemaire.
Les grandes voix ce soir sur Europe 1, nous sommes avec Yannick Halimi du Parisien, Bruno Jeudy, Paris Match. Je le disais, le Conseil constitutionnel rendra demain sa décision sur l'extension du pass sanitaire aux restaurants, aux avions et aux trains notamment. Et finalement, Bruno Jeudy, le Conseil constitutionnel aura consacré davantage de temps à examiner le texte que le Parlement lui-même.
Peut-être... Oui. De toute façon, c'était un examen en urgence à l'Assemblée. Hein. Le président l'annonce le 12 juillet. Il y a ensuite un timing incompressible pour que le Conseil d'État puisse l'examiner. Et après, directement en plénière, avec quand même cet aller-retour avec le Sénat, où finalement, le gouvernement a pris en compte une partie des mesures décidées par les sénateurs qui ne sont pas de la même couleur politique que la majorité à l'Assemblée. Donc il y a quand même eu, je trouve, ce point qui n'est pas qui est à mettre à l'actif du gouvernement.
Oui.
Ils ont voulu aller vite, ils n'ont pas voulu d'une deuxième lecture, du coup il y a eu cet accord. Maintenant, on attend le verdict du Conseil constitutionnel et c'est vrai qu'il y a des points qui posent problème et il pourrait y avoir, c'est vrai qu'il y a certains points qui pourraient passer à la censure. Hein,
On va voir ça dans le détail. Hein. Yannick Halimi, dans l'ensemble, est-ce qu'il est possible que les sages, justement, retoquent tout ou partie du plan du gouvernement demain? En gros, est-ce que ça passe ou ça casse?
Tout, je ne pense pas. Franchement, jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel n'a pas du tout retoqué, comme on dit aujourd'hui, aucun des textes relatifs à la crise sanitaire, aucun depuis, on va dire, un an et demi. Et le pass sanitaire en tant que tel, souvenons-nous qu'il est déjà appliqué, hein, il s'agit là d'un élargissement, n'a pas été non plus censuré par le Conseil constitutionnel lorsque la décision a été prise. Donc c'est quand même deux éléments et deux signaux importants. Maintenant, l'élargissement et les dispositions qui vont arriver, enfin sur lesquelles il va se prononcer demain, effectivement, il risque peut-être d'avoir des interrogations et des barrages. J'en vois deux ou trois si on a le temps là.
Bien sûr.
D'accord, pardonnez-moi. Très bien. Non, j'en vois deux ou trois. J'en vois sur tout ce qui est extérieur, notamment sur le pass sanitaire sur les terrasses. Parce que n'oublions pas que le Conseil constitutionnel doit juger en légalité, bien sûr, enfin en constitutionnalité, en opportunité au regard de la gravité ou pas, hein, de la crise en l'occurrence, et puis en proportionnalité, pareil, par rapport des mesures adaptées à la situation. Donc est-ce qu'il jugera que le pass sanitaire sur les terrasses est valide et constitutionnel? Il y a aussi l'entrée, le pass sanitaire demandé à l'entrée des hôpitaux avec
Alors ça, c'est un point de friction, justement, c'est en tout cas du côté des syndicats des blouses blanches.
Absolument, et des syndicats, et même qui, dont certains vont descendre dans la rue, et puis même de certains directeurs d'hôpitaux qui ne font pas la grève, qui sont plutôt favorables globalement à l'ensemble des mesures annoncées, mais qui appuient sur la grande, très grande difficulté d'application de ce pass à l'entrée des hôpitaux. Et troisième point, très rapidement, il y a aussi l'élément aussi qui a provoqué beaucoup, beaucoup de polémiques à l'Assemblée nationale et au Sénat et parmi les syndicats, c'est non plus le fait de devoir licencier, comme ça avait été prévu à un moment, des salariés qui n'accepteraient pas soit de se faire vacciner, soit d'avoir un pass sanitaire avant de travailler, d'entrer dans leur entreprise. Mais là, il s'agit même de la suspension du contrat de travail hein, qui est dans le projet de loi. Et même cette mesure-là, qui, dit-on, est encore moins protectrice, paradoxalement, qu'un licenciement. On ne va pas rentrer dans le détail, mais cette mesure-là pourrait également être censurée par les sages. Donc voilà, je vois au moins ces trois éléments.
Je suis d'accord. Je pense qu'il y a aussi un élément autour des centres commerciaux.
Autour des centres commerciaux,
il y a sans doute discussion entre les sages et on verra quelle sera leur décision. Mais globalement, moi, je crois aussi qu'il y a peu de chances que ce texte soit censuré dans son ensemble parce que ça n'a pas été le cas depuis le début. Et puis, dans la Constitution, il y a cette fameuse notion de protection de la santé des Français qui fait que des experts de constitutionnalistes, je pense notamment à Didier Mauss, dit que la plupart des décisions du Conseil constitutionnel s'appuient sur cette notion qui fait que la plupart des textes que le gouvernement a fait voter depuis le début s'est appuyé sur ce point-là. Et donc là, on est toujours dans la même philosophie. Maintenant, c'est vrai que dans le détail du texte, Yannick a raison, il y a quand même des éléments qui peuvent passer à la censure.
Et j'en ajouterai un, Bruno, c'est l'obligation sanitaire pour certaines professions. On sait que c'est le cas pour les professions médicales. Ça, je pense.
L'obligation vaccinale.
Pardonnez-moi.
Ça, là-dessus, je pense qu'ils sont bordés.
Sur les professions médicales, mais m'a-t-on dit cette obligation est étendue aussi aux pompiers. Et pourquoi les pompiers et pas les policiers? Alors ne me demandez pas les détails juridiques, mais eux aussi sont au contact en cas d'urgence.
Ils sont en première ligne. Le premier syndicat appelle à la grève contre cette
exactement,
obligation vaccinale.
Donc, vous avez raison. Donc là aussi, il pourrait avoir un élément de censure de la part du Conseil, mais tout ça, encore une fois, avec du conditionnel, de ma part en tout cas.
Alors, l'un des arguments avancés par les opposants justement à l'extension du pass sanitaire à l'hôpital, c'est de dire que ça peut poser un véritable problème dans l'accès aux soins.
Je ne pense pas, parce que ça ne touche pas l'urgence.
Pour les soins programmés, le pass sanitaire sera exigé à l'entrée, si l'on suit...
Oui, pour les soins programmés, ça pose...
Pour les urgences, naturellement.
Non, pas pour les urgences. Et ça pose un problème pour les familles. Enfin, vous voyez, c'est surtout ça, un problème d'ordre
moral.
C'est plus ça,
le problème.
Qu'avait soulevé la France insoumise de façon très, très, très forte et du coup... Ouais. Probablement légitime à l'Assemblée.
Mais moi, je relève que depuis qu'il y a eu l'annonce sur l'obligation vaccinale pour les personnels des hospitaliers et des EHPAD, globalement, la plupart des partenaires sociaux ont plutôt approuvé, hormis la CGT qui n'est pas très très claire sur cette question, et Sud qui appelle à manifester à droite à gauche, que ce soit y compris jusqu'à la SNCF, surtout à gauche. Il y a plutôt une adhésion, même si cette mesure, il faut le rappeler, n'existe qu'en Italie et maintenant en France, quand elle sera validée par le Conseil constitutionnel. Encore une fois, la plupart de ces professions, faut le rappeler, sont soumises déjà à une obligation, à certains vaccins, dès les concours d'entrée dans ces professions. Je pense aux infirmières, il y a une liste de vaccinations obligatoires. Après tout, qu'on ajoute le Covid parce que le Covid est apparu depuis, moi, ça ne me choque pas, ça pose encore problème. Mais j'ai le sentiment que ça va rentrer... dans les faits, dès lors que ça deviendra obligatoire. Il y aura beaucoup moins de débats qu'on le croit.
Ouais, sur l'extension à l'hôpital, je lisais ce chiffre, l'extension du pass sanitaire devrait coûter 60 millions d'euros par mois. C'est un chiffre de la Fédération hospitalière de France qui regrette justement que cette somme ne soit pas utilisée à soigner plutôt qu'à contrôler. On atteint peut-être justement une limite là. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, particulièrement dans quoi qu'il en coûte. Hein.
La fédération hospitalière, elle, va carrément jusqu'à demander la vaccination obligatoire.
Pour tous, ouais.
pour tous. Donc, ça peut être aussi une démarche qui est plus radicale, qui est plus claire, que demande par exemple le Parti Socialiste, qui est plutôt contre le pass sanitaire parce que difficilement applicable, dit-il, le Parti Socialiste. Le problème, c'est que pour la vaccination obligatoire, le président en a parlé d'ailleurs aussi, hein, le président de la République, ne l'a pas exclu. Après, se pose le problème de comment contrôler, voilà. Après, méfions-nous des chiffres. Enfin, je ne veux pas mettre en cause ce que dit la Fédération hospitalière avec les 60 millions. Après, il y a des chiffres qu'on avance a priori, et puis qui sont pas toujours la réalité une fois que toutes ces mesures sont mises en œuvre. Mais en tout cas, la Fédération hospitalière pose en deçà du coût du pass sanitaire le problème de la vaccination obligatoire qui, si la quatrième vague continue à monter, point d'interrogation, pourrait quand même se poser de façon très, très ferme sur le champ et sanitaire et politique et économique en France à la rentrée ou d'ici la fin de l'année.
Le Conseil constitutionnel pourrait aussi demander un délai, peut-être, avant l'adoption de l'application de ces mesures, sachant que tous les Français qui veulent le vaccin n'auront pas forcément leur passe sanitaire, loin de là, lundi prochain.
Oui, ça c'était aussi une demande qui avait été évoquée dans le débat parlementaire par les sénateurs de la majorité. Cette question du délai, effectivement, elle peut se poser, elle peut être pertinente pour certains aspects de ce pass sanitaire, le temps de la mise en place. Techniquement, ça ne va pas être simple. On peut aussi imaginer que si c'est validé, les autorités vont aussi être assez indulgentes dans un premier temps, parce que la mise en place dans la restauration dès la semaine prochaine, ça risque pas être simple, être simple non plus.
Il n'est pas le seul, hein, mais Jean Castex lui-même a saisi le Conseil constitutionnel. Il y a donc un petit pari politique tout de même au-delà de tout ça.
C'est assez classique. Hein. Ouais. Lorsque vous êtes sur des mesures comme ça de contraintes assez spectaculaires, et puis que le délai d'examen du texte n'a pas été très très long.
Oui, c'est la pratique.
La pratique pour le chef de la majorité, c'est d'anticiper et de lui-même, j'allais dire, d'annoncer qu'il déférera le texte au Conseil constitutionnel et de ne pas attendre que les groupes d'opposition le fassent. Et c'était la façon le plus simple de régler cette question-là.
Prise de risque mesurée, Jeannick Halimi.
Risque mesuré. Et alors, ce que dit l'exécutif, ce que disent certains ministres, c'est qu'en amont, ceci explique pourquoi ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Il y a eu quand même énormément de consultations avec des juristes de haut niveau pour éviter, déminer l'aspect juridique de la crise sanitaire et donc d'éventuelles censures de fond fondamentales du Conseil constitutionnel. Donc l'exécutif relativement serein par rapport à la décision de demain, mais tout est possible. Hein.
Tout est possible. On verra ça demain. Merci beaucoup, Bruno Jeudy, rédacteur en chef à Paris Match. Merci à vous, Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au Parisien.
Europe Soir, le 18-20, Alexandre Lemaire.
Europe Soir en été, ce sont aussi ces petits moments en musique pour vous accompagner. Le groupe français Kyo qui fait son retour avec Mon Époque.
Ce soir, j'ai le mal de mon époque. Je remplis des pages, ce soir je noircis les blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores. S'éclater les cordes vocales, mais c'est du sport. Pas la même ligne de départ, pas la même ligne d'arrivée. Tous nés sous un cimetière d'étoiles, mais pas tous aussi bien. Ma vie un backstage, mon futur un blind test. Toujours en quête, à la prochaine quête. Je suis mal dans ta peau, t'es mal dans la mienne. Ce soir, j'ai le mal de mon époque. Je remplis des pages, ce soir, je noircis les blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores. S'éclater les corps, vos casses, mais c'est du sport. Ce n'est pas ton jour, pas ton mois, pas ton année. Le bonheur court toujours après l'eau. Prochaine fête, je suis mal dans ta peau, t'es mal dans la mienne. Ce soir, j'ai le mal de mon époque. Je remplis des pages, ce soir, je noircis les blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores. S'éclater les corps vocales, mais c'est du sport. Je ne veux pas rester seul. We'll be right back.
Je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Oh. Je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul.
Mon époque, Kyo, single de ce début d'été qui s'est hissé très vite en première place des plateformes d'écoute musicale.
Europe 1, Alexandre Lemay.